Chapitre 18. Décembre 2021. Le catalogue d'Alex contenait 536 sursauts radio rapides qui avaient été détectés durant une année pleine. Ce grand nombre de détections localisées et caractérisées lui permettait de construire pour la première fois des études statistiques sur ces signaux qui pouvaient se répéter ou non. L'article qui détaillait ce travail de compilation était paru le 7 décembre dans The Astrophysical Journal Supplement Series et il était accompagné de deux autres articles dans The Astrophysical Journal qui étaient dédiés aux premières études statistiques qui portaient sur la distribution et sur la morphologie des signaux détectés. Un indice important pour comprendre, ou au moins essayer de comprendre, l'origine des FRB, c'était que justement, certains se répétaient et on en connaissait même deux qui le faisaient avec une activité périodique fenêtrée. La répétition excluait donc les modèles cataclysmiques, de type explosion d'astres, au moins pour les sources de FRB répétitifs. Mais on ne savait pas si tous les FRB étaient en fait des sources répétitives, avec pourquoi pas des temps d'attente très différents entre les répétitions. De plus, les deux FRB répétitifs qui avaient été localisés et dont les galaxies hôtes avaient des propriétés qui avaient été mesurées quelques années auparavant, se trouvaient dans des galaxies de type tardif, à forte formation stellaire, alors que les localisations de FRB non répétitifs apparents indiquaient que ces sources pouvaient parfois résider dans des galaxies avec une formation stellaire modeste ou faible. La détection d'un FRB provenant clairement d'un magnétar était plutôt cohérent avec le fait de trouver des FRB dans des régions à forte formation stellaire, surtout des étoiles massives qui explosent rapidement, produisant des magnétars. Grâce à son catalogue, on pourrait comparer les taux d'occurrence des FRB avec ceux des éruptions de magnétars pour tenter de trouver des corrélations. Pour cela, un grand nombre de FRB était nécessaire. Des études détaillées d'un grand échantillon de FRB provenant d'un seul relevé, répétitif ou non, étaient maintenant envisageables. Un tel relevé, combiné avec des relevés de galaxies, pouvait aussi permettre de rechercher des corrélations, par exemple des variations avec le redshift, c'est-à-dire la distance cosmique, ou bien d'étudier les effets de la propagation des ondes radio des FRB dans leur environnement. L'analyse des distributions de la mesure de dispersion, notamment en comparant les FRB répétitifs et les non répétitifs, pouvait révéler des localisations et des environnements différents, tout comme la recherche de différences dans les temps de diffusion ou les largeurs de bande. Parmi tous les 536 sursauts, 474 étaient des sursauts uniques et 62 provenaient de 18 sources répétitives précédemment connues. Alex avait trouvé un élément intrigant et potentiellement éclairant sur la nature des FRB. Les sursauts répétitifs différaient des non-répétitifs apparents par leur largeur temporelle intrinsèque et leur largeur de bande spectrale. Pour Alex et ses co-auteurs de la collaboration, cela pouvait suggérer que les FRB uniques et répétitifs pourraient en fait former une population distincte, ou peut-être que le taux de répétition était fortement corrélé avec la morphologie des signaux. C'était en tout cas le plus grand échantillon de FRB jamais réalisé, augmentant l'échantillon précédent par un facteur 4. Pour chaque sursaut, les chercheurs de Chaim FRB fournissaient les propriétés détaillées de l'impulsion, ainsi que sa localisation. Les deux premières études statistiques qui étaient publiées simultanément concernaient tout d'abord les statistiques de la morphologie spatio-temporelle des sursauts, sources répétitives et non répétitives, et la seconde se penchait sur la distribution des FRB dans le ciel par rapport au plan galactique. Et deux autres articles étaient déjà en préparation. Une analyse de corrélation croisée des sources de catalogue avec les catalogues de galaxies et Une étude détaillée de la distribution, de la mesure de dispersion et de la diffusion. C'est à cette même époque que la collaboration Chime-FRB avait mis en place un système d'alerte en temps réel pour donner l'information à la communauté dès qu'un FRB était détecté, afin qu'un suivi rapide en multiples longueurs d'onde puisse être effectué dans un effort continu pour parvenir à déterminer l'origine de ces sources énigmatiques. Dans le groupe, seuls Alex, Laure, Jeffrey et Randy travaillaient dans le groupe Chime FRB. Lenny travaillait sur les blazars avec un autre radiotélescope. Sophia travaillait avec Chime mais sur la mesure de l'hydrogène dans les galaxies. Et Massimo Ruggieri à Toronto et Shiva Astana à McGill faisaient partie du groupe Chime Pulsar qui cherchait à détecter les infimes variations de pulsation de nombreux pulsars qui seraient le signe du passage d'ondes gravitationnelles. Les membres de Montréal avaient prévu de se voir dans leur bar de prédilection du quartier latin. Est-ce qu'on planifie d'aller au golf une quatrième fois ? Demanda Lenny. Moi, je dirais que ça va dépendre de la date à laquelle ils la remettent en route, répondit Laure, à cause de la maintenance de Chime. C'est toujours prévu le 29 juillet, c'est ça ? Dit Sophia. Ouais, on arrête les acquisitions de données le 29 juillet et c'est toujours prévu pour durer 3 mois. Ok, c'est dans 2 semaines, répondit Alex. Pour l'instant, ils n'ont toujours rien fait et c'est tant mieux. Ça fait maintenant 5 jours. Ce qu'on pourrait dire, c'est que s'ils remettent la borne dans plus d'une semaine, disons au plus tard le 20, ça ne servirait plus à grand-chose d'intervenir cette année. Ouais, gagner une semaine de données propres, ça vaut pas le coup de prendre le risque. Je suis d'accord, répondit Shiva. Par contre, s'ils la remettent demain, ça peut encore valoir le coup. D'ailleurs, c'est bizarre hein, qu'ils la remettent pas plus vite, non ? Rétorqua Laure. C'était pareil la dernière fois, ils ont mis plus de temps à la remplacer que la première fois. Et pourtant, ils n'ont pas changé d'opérateur. C'était exactement la même borne, apparemment. Ils ont peut-être compris que c'était intentionnel et peut-être qu'ils sont en train de préparer des trucs pour nous tendre un piège, lança Sophia. Alors, raison de plus pour ne pas y retourner tout de suite, répondit Laure. Bon, on attend jusqu'au 20. Pour voir ce qu'ils font, ou bien on arrête les frais pour cette année ? Demanda Shiva. C'est vrai que là, on n'aurait plus grand-chose à gagner. Chime s'arrête pour 3 mois, donc jusqu'à la fin octobre, et en octobre, le golf est fermé pour tout l'hiver, jusqu'au mois de mai prochain. Faut demander aux autres ce qu'ils en pensent. Moi, je serais d'avis d'attendre jusqu'au 20, répondit Lenny. Pierre Marchandeau, en découvrant les images, dit simplement « On va les choper !» On voyait très nettement 2 individus, visiblement camouflés pour être le moins visible possible, qui s'affairaient au pied de l'arbre, puis l'un des deux grimpait dedans. Ça ne durait que quelques minutes en tout. Les images infrarouges montraient nettement une forte source de chaleur au niveau de celui qui était monté dans l'arbre à la position de la borne. Sans doute un chalumeau portable. Puis ils disparaissaient du champ de vue aussi vite qu'ils y étaient apparus. C'était dans la nuit du 8 au 9 juillet, à 5h21 très précisément. Marchandeau commença tout de suite par récupérer la liste de tous les téléphones qui avaient borné sur la borne détruite cette nuit-là, avant l'heure fatidique. Cela avait été facile, surtout que CNC avait été conciliant quand Marchandeau leur avait précisé le but de sa demande. Il y en avait plusieurs. Et la comparaison avec le listing des clients de l'hôtel du Golf n'avait pris que quelques secondes. Il ne restait plus qu'un seul numéro, et c'était forcément celui des intrus qui avaient probablement dû vérifier le résultat de leur forfait. CNC lui permit de découvrir qu'il s'agissait d'un terminal sans abonnement, et évidemment dans pareilles circonstances, qui avait été acheté à Vancouver par un certain Stephen Hawking qui habitait près de Toronto. Il ne fallait pas prendre Marchandeau pour un perdreau de l'année. Hein. Il se doutait bien que c'était une usurpation d'identité, mais par acquis de conscience, il vérifia tout de même dans l'annuaire s'il existait un docking à Mississauga. Il fut surpris de constater qu'il y existait une certaine Helen Dawking. Il allait peut-être falloir faire un tour du côté de Toronto. L'ancien militaire demanda ensuite à CNC les infos des téléphones qui avaient borné dans les nuits du 24 au 25 mai et du 14 au 15 juin, les deux premières fois que la borne avait été endommagée. Il s'agissait évidemment, là encore, de téléphones prépayés et avec un nom différent. Un certain Fred Coyle, le 15 juin, et un certain Joe Bell, lors de la première fois. Ils habitaient tous aux environs de Toronto, alors que le téléphone avait été acheté à chaque fois à Vancouver. Les types n'étaient pas très futés. Il paraissait évident qu'ils vivaient non loin de Vancouver, et absolument pas à Toronto, a priori. Or, le soi-disant Joe Bell devait habiter à Toronto même, et Fred Coyle à Markham. Il y avait de très nombreux Bell à Toronto, mais pas de Joe. Et en revanche, il n'existait pas du tout de Coyle à Markham. Plutôt que d'aller fouiner vers Toronto, il serait sans doute plus utile de chercher autour de Vancouver. La solution qui était maintenant envisageable en parallèle, ça serait de faire remplacer la borne 5G une nouvelle fois et de mettre en place ce qu'il fallait pour attraper les types en flagrant délit quand ils reviendraient. S'ils étaient venus trois fois, on pouvait penser qu'ils avaient une forte motivation, un sujet qu'il faudrait aussi travailler, et que donc ils reviendraient encore. La direction du Golfe ne voulait pas attendre pour rétablir la connexion, surtout pour ces voiturettes autonomes qui étaient un atout non négligeable pour une clientèle qui n'aimait pas conduire ses engins sur les terrains de golf. Lors du deuxième remplacement et l'installation de la troisième borne, ils avaient demandé à CNC, de concert avec l'équipe de Marchandeau, qu'une quatrième borne soit disponible immédiatement pour pouvoir remplacer la précédente, si elle subissait le même sort que les précédentes. CNC était prêt à réinstaller dès le lendemain la quatrième borne, qui avait été entreposée dans les locaux de la réception. Mais Marchandeau n'avait pas encore mis en place son dispositif qui permettrait d'attraper les intrus en flagrant délit. Il serait contre-productif de mettre en service tout de suite la borne avant de pouvoir agir sur les activistes qui pourraient intervenir aussitôt et la détruire à nouveau. Marchandeau avait besoin d'un peu de temps pour mettre en place un nouvel équipement et une équipe de 4 personnes. Il s'agissait désormais de placer une caméra thermique qui visait la totalité du green du trou numéro 7 depuis l'autre côté de l'île, au niveau du parcours 2. Cette caméra serait reliée directement à la salle où se trouvait le gardien de nuit, qui serait épaulé, durant le temps qu'il faudrait, par deux autres gars costauds. Et deux autres gars seraient positionnés à l'extérieur, sur la route qui longeait le terrain, afin d'intervenir rapidement. Dès que leur écran montrerait du mouvement sur l'île, les deux gars de l'intérieur fonceraient avec un quad, quitte à laisser des grosses traces sur les fairways, ce que le directeur avait accepté à contre-cœur. Et les deux autres, de l'extérieur, fonceraient également pour prendre les intrus en tenaille. La nouvelle borne fut branchée le 21 juillet. « Il nous manque encore quel plan ?» demanda Alex. « Il y a CNC et Vericom, vous avez les deux ?»« Ouais, il y a les deux, » répondit Laure. Alors là, c'est celle de Vancouver, ça, c'est celle de Toronto qu'a dégoté Massimo, et puis on a aussi trouvé les plans d'installation à Calgary. Ça commence à être pas mal, hein, avec ceux qu'on avait déjà, dit Laure. On n'est que 9 de toute façon, hein, donc ça servirait à rien d'aller chercher dans d'autres villes. On s'y met à 2 dans les plus grandes villes, et il y en aura un qui sera tout seul à Vancouver. On peut se répartir tout de suite les villes, puisqu'on est tous là. Vous êtes OK ? Demanda Jono. Tous acquiescèrent et Jono continua. Je prends Vancouver, si ça ne vous dérange pas. C'est chez moi, dit Jono. OK, dit Randy. Moi, je prends Calgary. Je fais Calgary avec Randy, poursuivit Jeffrey. Je connais déjà un peu le coin. Hey, on a déjà tout l'ouest. C'est cool, dit Lenny. « Bon, j'imagine que tu veux t'occuper de Toronto, Massimo ?»« Comment t'as deviné, mec ?»« À fond !» Je vais t'en dégommer un maximum, tu vas voir. C'est le plus gros morceau, hein. Bon, je viens avec toi à Toronto, répondit Lenny. Sauf si d'autres veulent y aller. Shiva, Laure, Sophia et Alex firent ensemble un nom de la tête qui valait approbation. Vous préférez Montréal ou Québec, les filles? Demanda Alex. Je veux bien faire Québec, répondit la petite indienne. Ok, je vais avec Shiva, dit Laure. Ça te va, Sophia? Tu me dis, hein, si tu préfères t'éloigner de Montréal ou d'Alex, je peux aussi faire Montréal. Non, c'est bien, je dirais même que ça m'arrange de rester ici. Mais je me dis qu'il faudrait peut-être être trois à Toronto, en fait, et un seul sur Québec, parce que c'est quand même beaucoup plus petit. Ouais, je crois que Sophia a raison. Ça serait mieux d'être trois à Toronto, reprit Alex. Je peux y aller. Et Laure et Sophia, vous pouvez rester à Montréal, ça vous irait? Ok pour moi, dit Laure. Ça t'embête pas d'être toute seule, Shiva? Non, non, ça me va, sans problème. C'est vrai que Québec, c'est quand même beaucoup moins vaste et je devrais arriver à en désactiver facilement 5 ou 6, peut-être plus. Bon, et ben voilà, on va se faire les bornes d'ici avec Sophia, c'est parfait, dit Laure. Chacun de nous n'a plus qu'à apprendre son plan par cœur. On se répartit entre nous des secteurs de la ville, sauf Jono et Shiva qui auront la chance d'avoir une ville pour elles toutes seules, Vénard. Tout le monde est toujours partant à 100%? Demanda Lenny. C'est le moment ou jamais hein, de le dire. On a le droit au doute. 100%, dit Sophia. 100%, dit Laure. Moi aussi, dit Alex. 200%, dit Massimo. Pareil, dirent ensemble Randy et Jeffrey. Moi aussi, 100% et même plus, dit Jono. Ouais, on y va! Lança Laure en levant le poing. Bon, pour le texte, il va falloir faire super gaffe. Il ne faut pas que ce soit écrit sur une machine qui ait un rapport de près ou de loin avec l'un de nous. Le mieux, à mon avis, c'est d'utiliser un ordi public et d'utiliser un compte mail créé juste avant de l'envoyer et supprimé juste après. Vous avez d'autres idées pour ne pas laisser de traces compromettantes? Ouais, il faut écrire le texte une seule fois sur un papier. On le tape dans un mail et on brûle la feuille aussitôt. Donc tout le monde doit réfléchir à ce qu'il faut dire, mais sans l'écrire, répondit Sophia. On rassemble nos idées une seule fois et puis on brûle la feuille une fois qu'on a convergé, c'est ça? Fit Shiva. Ouais, comme ça, on ne laisse aucune trace, répondit Sophia. Ou alors, on tape direct le texte dans un mail, sur un ordi public donc. Mais il faudrait qu'on soit tous devant l'écran pour valider ce qu'on écrit, répondit Alex. On voit bien que c'est pas très pratique, ça. Hein. L'idée de Sophia tient la route, je trouve, dit Lenny. Après, il y a plusieurs solutions. Soit celui qui fera le mail apprend par cœur tout le texte avant de le brûler et d'écrire le mail, qui pourrait être plusieurs jours après. Ou bien on garde la feuille manuscrite un petit moment avant de faire le mail, et ça, c'est super dangereux. Ou sinon, ça veut dire qu'on doit écrire le texte ensemble juste avant d'envoyer le mail, ce qui veut dire le jour J. Et je vois pas comment on pourrait faire ça puisqu'on sera dispatché un peu partout, dit Alex calmement. Il faudra l'apprendre par cœur. Ça aurait été facile si on était tous ensemble au moment de l'envoi du mail. Il aurait suffi que chacun apprenne un neuvième du texte, mais seul un ou une d'entre nous devra faire ça. Donc, c'est elle ou lui qui devra apprendre tout le texte. Et en peu de temps, si possible, pour le faire disparaître au plus vite, reprit Laure. On peut peut-être choisir parmi nous qui aurait une super bonne mémoire, par exemple. C'est peut-être mieux que de devoir tirer au sort l'heureux ou l'heureuse gagnante qui aura cette tâche en plus le jour J. Dit autrement, est-ce qu'il y aurait un ou une volontaire pour faire ça? Dit Alex. Et on peut aussi dire que ça devrait faire pas plus d'une page, disons même une demi-page. Ce genre de truc, il faut pas que ce soit trop long, mais il faut pas que ce soit trop court non plus. Il faut qu'on explique toutes nos motivations en détail, poursuivit Sophia. Moi, je suis partante, lança Shiva. Moi aussi, dit Jeffrey à peine une seconde plus tard. Personne d'autre ? Demanda Alex. Parmi les sept jeunes gens qui n'avaient pas exprimé un volontariat pour apprendre le futur texte et le retranscrire de mémoire dans un mail à toutes les rédactions possibles du pays, aucun ne répondit positivement. Deux volontaires, c'était déjà très bien, pensait-il, et ils seraient déjà bien stressés parce qu'ils auraient à faire le jour J. « Ça vous dirait de faire un petit test pour vous départager tous les deux ?» demanda Sophia. « Si tu veux, » répondit Jeffrey. « Ok, » dit Shiva. « Je vous donne un texte d'une page et vous avez 5 minutes pour l'apprendre et le réciter le plus fidèlement possible. Ça vous dit ?»« Celui ou celle qui y arrive le mieux, avec le moins d'erreurs, aura en charge la rédaction du mail, » précisa Sophia. « Allons-y !» dit Jeffrey en défiant Shiva du regard. « C'est quoi comme texte ?» demanda Shiva. « Je prends ce que j'ai sous la main. Hein. Tiens, attrape. C'est un livre que je suis en train de lire en ce moment. C'est trop bien. C'est Kip Thorne, Trou noir et distorsion du temps. Alors, prenez la page que vous voulez, bon, la même page pour chacun, vous la prenez à tour de rôle pendant 5 minutes et vous la réciterez dans un quart d'heure. On verra qui de vous deux a la meilleure mémoire. » ajouta Sophia. Bon, pendant qu'ils font ça, nous, tant qu'on est tous là, on peut peut-être parler un peu de notre autre action, lança Lenny. Ah oui, répondit Massimo avec une forte voix pleine de bière tiède, complètement couverte par la musique du bar. Ouais, on a réussi à trouver pas mal de trucs de notre côté sur la fabrication des satellites de Skylink, répondit Laure. « Et nous aussi, on a plein d'infos croustillantes sur les antennes !» répondit Massimo en souriant sous sa barbe de 6 jours. « Bon, on commence par les satellites ?» dit Laure. « Alors, avec Lenny, Randy et nos deux éléphants qui apprennent leur texte, là, on a trouvé plein de trucs. D'abord, il n'y a qu'un seul site de fabrication pour les satellites de Skylink, et il se trouve au même endroit qu'un site important de Black Rocket, au Texas. » C'était logique, hein, vu que c'est la même boîte et que les satellites sont lancés uniquement par Black Rocket. Bezef, il est du genre à rationaliser les coûts, tu vois. Il optimise, quoi. Ouais, et pas que fiscalement. Donc, cette usine de fabrication, qui est plutôt une usine d'assemblage de composants qui viennent d'un peu partout, est dans la banlieue d'Austin, continua Laure. Ce qui sort de là, c'est des satellites prêts à être mis dans la coiffe d'un lanceur. Ça veut dire qu'ils font tout là-dedans. Non seulement l'assemblage des différents composants, mais aussi des tests de fonctionnement, de robustesse, etc. Pour que le machin soit prêt pour être mis en orbite. Et c'est quoi les morceaux qui y rentrent ? Dit Alex. J'y arrive. En entrée de cette usine, c'est des morceaux plus ou moins gros. Par exemple, ils se font livrer des panneaux solaires entiers. Il n'y a plus qu'à faire les branchements qui vont bien, et vas-y ! Ça vient de Taïwan. Il y a aussi la structure externe des satellites, une espèce de boîte métallique qui contient tout l'électronique et sur laquelle sont mis les panneaux solaires qui vont alimenter le bousin. Cette structure est fabriquée par une boîte d'aéronautique spécialisée qui se trouve dans la banlieue de Houston, à 280 km de l'usine. Ils en reçoivent un camion entier par semaine. C'est le maillon faible de la chaîne ? Demanda Jono. On pense que oui, répondit Laure, parce que tous les autres composants sont des petits éléments, soit d'électronique, soit de systèmes électriques ou mécaniques, et ils viennent d'un peu partout. Il y en a qui viennent de Chine, d'autres du Japon et même d'Allemagne. Ça vient directement par avion en arrivant à l'aéroport d'Austin, tandis que le boîtier du satellite arrive par transport routier depuis Houston, un peu plus de 3 heures de route. Ça serait l'élément le plus accessible avant qu'il arrive à l'usine. Et un élément crucial pour la chaîne de fabrication, continua Lenny. Ouais, parce que c'est une fabrication unique, qui n'est pas interchangeable comme pourraient l'être des composants électroniques. Intéressant, répondit Alex. Si on pouvait agir au niveau du camion qui transporte ce matos, ça aurait un impact direct. C'est ce qu'on s'est dit, reprit Lenny. Il suffirait de détourner le camion. Détourner ? Et comment tu ferais ça ? Fit Alex. Je sais pas encore. Il va falloir aller directement sur le terrain pour se rendre compte de comment c'est fait et puis étudier le truc. Et ça va prendre pas mal de temps. En même temps, c'est chez toi, non ? dit Sophia en reprenant une gorgée. Pas vraiment, moi je suis de Caroline du Nord. Greensboro. Bref, après avoir regardé tous les flux de matière de cette usine de Skylink, on pense que c'est vraiment ce transport par camion qui est le point faible et sur lequel on pourrait agir le plus facilement. Alors, on parle un peu des antennes ? Lança Alex. Sophia, je te laisse commencer pour dire ce qu'on a trouvé avec Massimo et Jono. Ouais, eh bien, c'est passionnant, cette recherche technico-industrielle, finalement. On a appris plein de choses sur les méthodes qu'ils utilisent. Comme on l'avait pressenti, les antennes de réception sont bien reçues, entièrement montées, directement en provenance d'une usine qui est située à Shanghai. Elles sont centralisées dans un unique endroit qui est en Californie, à côté de San Diego. Mais apparemment, elles ne sont pas complètement prêtes à l'emploi quand ils les reçoivent, parce qu'il y a une intervention humaine dessus avant qu'elles soient envoyées vers trois autres endroits aux États-Unis. Et c'est à partir de ces centres de stockage qu'elles sont réexpédiées ensuite vers les clients partout dans le monde. Les trois sites sont situés à Denver, dans le Colorado, à Columbus, dans l'Ohio, et à Camden, dans le Delaware. Le Delaware! Comme c'est étonnant! J'étais sûr qu'on verrait apparaître un paradis fiscal à un moment donné, fit Lenny. Ah, mais attends, c'est pas le siège de Skylink. Je sais, le siège, il est à Austin, mais ils n'ont pas besoin de domicilier leur siège dans un paradis fiscal pour éviter les impôts. Hein. Ils peuvent s'arranger pour dire que c'est l'établissement du Delaware qui fait tous les bénéfices et les autres font rien. Et c'est joué! Quand t'es libertarien comme Bezef, tu méprises les impôts et tu fais tout pour en payer le moins possible. Et pas du tout, c'est encore mieux. Pour ça, le Delaware, c'est un petit paradis pour les sociétés, répondit Lenny. Et on en sait un peu plus sur le contenu des antennes et comment elles marchent. Mais c'est un peu technique, alors je sais pas si je vais vous raconter tout ce qu'on a appris. En gros... C'est pas des simples antennes de réception satellite, c'est un peu plus que ça. Simplement parce que la liaison Internet, elle va dans les deux sens, en download et en upload. Donc c'est aussi des antennes en émission. Et le truc le plus étonnant là-dedans, c'est que chaque antenne est munie d'un capteur GPS. Elles sont géolocalisées ? Demanda Laure. Ouais, c'est assez dingue, hein ? Ça veut dire qu'elle communique avec deux types de satellites, les satellites de positionnement global et les satellites de transmission de Skylink. On pense qu'ils font ça pour optimiser la transmission de données, c'est-à-dire qu'à chaque envoi de données vers un satellite Skylink, la position est donnée en même temps. Ce qui fait que c'est un certain satellite de la constellation qui va prendre en charge ces données-là en fonction de la position de l'émetteur, et pas les autres qui pourraient quand même le faire si besoin. Est-ce que ça veut dire que s'il n'y a plus de signal GPS, elle ne marche plus ? Demanda Randy. Logiquement, d'après ce qu'on a compris, ça serait le cas, puisque dans ce cas, il ne pourrait plus y avoir de satellite Skylink attribué pour l'antenne en question. C'est dingue ça ! En gros, ça veut dire que tout le système Skylink est entièrement dépendant du système GPS. C'est pas du tout indépendant comme ils le clament partout, alors. Eh ben non, visiblement. Alors, ça serait quoi le point faible de tout ça ? Demanda Lenny. Massimo prit la parole avant Alex. Clairement, le point faible, c'est un truc technologique, comme cette histoire de GPS embarqué. Parce que pour ce qui est du flux entre l'usine de San Diego et les entrepôts de conditionnement, je vois pas où on pourrait intervenir. Ouais, je suis d'accord, poursuivit Alex. Il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. Sauf si on trouve un moyen de perturber l'approvisionnement en amont de San Diego. Et ils le savent, les utilisateurs, qu'ils sont géolocalisés par leur antenne ? Demanda Laure. Les six comparses regardaient Laure. Ben ouais, peut-être que les utilisateurs ne le savent pas. Vous l'avez appris comment, vous ? Info grise ? Ouais, info grise, répondit Sophia. Je confirme, ajouta Jono. C'est pas une information publique. J'ai trouvé ça au fin fond d'un document interne à Skylink qui a été sorti il y a quelques années et qui s'est retrouvé sur un serveur de pirates. Mais peut-être que ça ne plairait pas aux gens de savoir qu'ils sont géolocalisés à leur insu, non? Il y aurait peut-être quelque chose à faire de ce côté-là, répondit Sophia. Mais oui, t'as raison. Imagine, à chaque requête Internet, on peut savoir exactement où se trouve physiquement le type qui l'a fait. C'est pas seulement son IP, mais sa position physique au mètre près. C'est hyper intrusif, en fait. C'est une faille de sécurité, mais pas de sécurité informatique. Là, c'est une faille de sécurité physique. Sur un champ de bataille, si une armée utilisait ce système de communication, elle pourrait être hackée et du coup, tout de suite localisée par l'ennemi. Ça serait affreux. On creuse ça comme point faible alors? Lança Laure. Et le camion qui transite entre Houston et Austin pour les satellites? Tout le monde émit une réponse positive avant de se tourner vers Shiva et Jeffrey qui s'étaient isolés dans le coin où plongeait la grande table. Ils avaient terminé d'apprendre leur page de texte et s'apprêtaient à s'affronter dans un duel d'éloquence.